Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver à Canal Académie, l'antenne de l'Institut de France, pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir de retrouver le professeur Philippe Dessertine. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. Donc, je rappelle très brièvement que vous êtes donc agrégé en sciences de gestion, docteur habilité à diriger des recherches et professeur de finance et de gestion, et que vous êtes aussi le directeur général de l'Institut de haute finance, bien connu, et vous êtes donc professeur à Paris 10.
Nanterre, oui.
Nanterre. Donc, nous vous recevons avec d'autant plus de plaisir que vous venez de faire paraître chez votre éditeur préféré, Anne Carrière, en 2010, un nouvel ouvrage, dans la veine du précédent d'ailleurs, « Le monde s'en va en guerre ». Et ne sait quand on reviendra, comme le disait la chanson, la cantate de l'époque. Alors cet ouvrage qui fait suite en quelque sorte à celui que vous avez fait paraître l'année dernière, « Ceci n'est pas une crise, juste la fin d'un monde », toujours chez le même éditeur, aborde un sujet qui jusqu'à présent n'était pas trop dans la pensée des économistes, qui était celui d'une sortie de crise par la pire des solutions, donc la guerre. Alors, je rappelle que cet ouvrage comprend 250 pages et coûte 15 euros. Alors, ce professeur, donc, première question, quelle est votre thèse ?
Je crois que, effectivement, quand on regarde cette notion de guerre, immédiatement, cela glace le sang. C'est un mot presque tabou aujourd'hui dans la France et dans les pays occidentaux de ce début du XXIe siècle. Et pourtant, évidemment, c'est une réalité, bien sûr, qui d'abord, malheureusement, est une réalité du reste du monde. Si nos pays n'ont pas connu la guerre depuis des décennies, ce n'est pas le cas de nombre de grands pays et de grandes zones du monde. Et puis d'autre part, bien entendu, c'est quelque chose qui n'a pas de sens du point de vue historique. Nous sommes effectivement dans une exception, dans une période absolument inouïe de paix qui ne doit pas nous faire occulter la possibilité que le pire puisse revenir un jour. J'ai l'habitude de dire un petit peu, en résumé rapidement, nous sommes en 1937, dans cette année 2010. Cette année 2010 où vient d'être inaugurée l'Expo universelle de Shanghai. 1937, c'était aussi l'Expo universelle de Paris, dans laquelle nous avions au Trocadéro l'immeuble de l'Allemagne nazie qui faisait face à l'URSS. À l'époque d'ailleurs, qui était considéré comme deux grands concurrents en termes de croissance, deux grands pays qui devaient s'affronter un jour ou l'autre d'un point de vue économique et dont on ne pensait pas qu'ils auraient la folie d'aller jusqu'à un affrontement guerrier. 1937, c'était un an après les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. Nous sommes deux ans après les Jeux Olympiques à Pékin. Et il n'y a pas simplement qu'une rime. Il y a entre les deux l'anniversaire de la Révolution chinoise, l'année dernière, 2009. Cet anniversaire qui a été célébré notamment par un immense défilé militaire sur la place Tiananmen, qui, pour beaucoup, a glacé le sang. Donc nous sommes dans cette période aujourd'hui où la crise économique, qui n'a rien à voir avec celle que nous avons vue jusque-là. Et c'est vrai qu'évidemment, mes collègues économistes qui ont tendance à vouloir à tout prix considérer qu'il s'agit d'une crise cyclique du capitalisme et rien de plus, ne peuvent envisager ce qui s'est passé déjà dans les années 30, c'est-à-dire une crise extraordinaire, disloque littéralement les relations internationales. Et nous sommes dans cette période où le risque existe. Alors je dis bien, nous sommes en 37, c'est-à-dire nous ne sommes pas en 39 ou en 1940. Il est encore temps, largement temps de réagir. Et je crois que, en dépit du titre et en dépit de la gravité de ce qui a été écrit, et j'avoue que, en tant qu'économiste, ça n'a pas forcément été facile d'écrire les pages concernant le risque de guerre. Ce n'est pas des choses auxquelles nous sommes habitués. En dépit de tout cela, je crois qu'il faut justement garder optimisme et espoir. Et nous y reviendrons sans doute tout à l'heure. Ce livre est d'abord un livre d'optimisme, mais d'un optimisme lucide, c'est-à-dire d'un optimisme qui ne veut surtout pas écarter d'un revers de main toutes les éventualités qui sembleraient trop désagréables. Et évidemment, parmi toutes celles-là, probablement la pire est une guerre qui nous toucherait vraiment.
Alors, pour effectivement fouiller dans la marmite de l'avenir, comme disait Jean Jaurès, vous vous appuyez sur l'histoire longue. Et en fait, l'histoire de l'homme, c'est bien évidemment l'histoire des guerres. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, donc on va prendre le problème peut-être un peu à l'envers, que ça n'est pas donc on n'ouvre pas une nouvelle phase de répétition et de prolongement de cette dynamique de l'histoire de l'homme qui est celle des guerres. Alors, quels sont les points qui, finalement, avant qu'on revienne sur les risques de fracture, qui vous font dire que nous avons quand même de bonnes raisons de rester optimiste sur la sortie de crise autre que par la guerre.
Donc on reviendra effectivement sur les risques, mais je crois que du point de vue de l'optimisme fondamental que nous devons avoir, c'est que finalement tout ce dont nous parlons, y compris la crise, y compris cette montée des tensions du point de vue international, ne sont que le résultat des actions et des modes de fonctionnement, et même alors donc en étant plus précis lorsque l'on parle d'économie, des modes de consommation des grands pays riches. Cette crise est avant tout une crise de la dette, une crise du surendettement des pays occidentaux, et par conséquent, eh bien, on va dire que toutes les difficultés que nous vivons pourraient être aujourd'hui conjurées et peuvent être particulièrement combattues si les pays occidentaux acceptent d'assumer la conséquence, évidemment, de leur folie, c'est-à-dire le fait que demain, il va falloir réduire cette dette, il va falloir en assumer les retombées, assumer les retombées de la réduction de la dette, ça voudra dire une réduction du pouvoir d'achat, ça voudra dire de la rigueur, c'est un des derniers points que j'aborde longuement dans mon livre, ce qui n'est pas nécessairement à considérer comme une catastrophe. Le mur de la dette vers lequel nous courons et vers lequel court l'économie mondiale est effectivement quelque chose de dramatique parce que c'est quelque chose dans lequel nous allons nous fracasser, mais en même temps, il y a un autre mur dans le fonctionnement des pays occidentaux qui est le mur de l'aberration de nos modes de fonctionnement, de l'aberration de nos systèmes économiques, de nos systèmes de consommation. Et au fond, ce problème de la dette qu'il va falloir résoudre n'est rien d'autre que le premier pas pour regarder en face les aberrations de notre mode de fonctionnement. Et c'est en cela qu'on peut être optimiste et que l'on peut penser que les jeunes générations parviendront à cela.
Je pense que c'était pas mal de commencer par cette lueur d'optimisme pour ne pas désespérer avant la fin de l'interview.
Non, je répète, je crois que c'est pas du désespoir. Je crois qu'il faut regarder les choses en face et pas du désespoir, au contraire.
Tout à fait. Alors, je retrouve dans votre propos ceux d'un membre éminent de la commission du Grand Emprunt, qui était co-présidé par Alain Juppé et Michel Rocard. Donc, au passage, j'imagine que vous avez justement examiné les risques dont vous faites état dans votre premier chapitre, ce que vous appelez les lignes de fracture, et tout particulièrement l'arc Israël-Corée du Nord. Alors, c'est pour être concis, il s'agit de quoi ?
Mon approche pour comprendre ou pour réfléchir aux conséquences de cette crise a d'abord été une approche de compréhension du modèle, ou en tout cas de la fracture fondamentale que nous avons sur le modèle anglo-saxon et tout spécialement sur le modèle américain du point de vue de cette crise économique. Cette clé de lecture s'est avérée extrêmement riche lorsque l'on regarde effectivement la ligne de fracture géopolitique qui va, vous l'avez dit, qui part d'Israël et qui va jusqu'à la Corée du Nord, ce qui est un arc évidemment gigantesque, mais un arc dans lequel on va trouver évidemment la Jordanie, puis l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, qui sont aujourd'hui probablement la zone la plus dangereuse que l'on puisse avoir dans les relations internationales, qui se prolonge avec l'Inde, qui elle-même voisine la Chine, qui elle-même voisine la Corée du Nord, qui elle-même voisine la Corée du Sud. Donc nous avons là une clé de lecture possible, puisque nous avons à chaque fois des liens très forts avec un passé anglo-saxon et aujourd'hui avec une présence américaine. Peu à peu, néanmoins, dans cette vision et dans cette perspective des dangers qui peuvent monter du point de vue géopolitique, s'est imposée une deuxième perspective qui, à mon sens, est également riche de réflexion, qui est celle non pas de la décroissance ou de la disparition ou de la récession ou de la diminution d'influence de l'approche américaine, c'est l'autre vision, c'est la montée en puissance de la Chine. La montée en puissance de la Chine pose un vrai problème par rapport à notre monde d'abord économique. La Chine possède autant de forces que de fragilités, et ces fragilités sont autant de facteurs qui, un jour prochain, et quand je dis prochain, il peut être effectivement très rapproché, pourrait conduire la Chine à se retrouver dans des impasses dans lesquelles elle aura besoin soit de l'aide des pays occidentaux, soit éventuellement d'une stratégie alternative qui ne serait pas seulement économique. Donc ce que j'évoque peu à peu, et j'avoue que d'ailleurs cette deuxième vision s'est imposée au fur et à mesure de l'écriture, c'est-à-dire que plus j'allais dans la représentation des problématiques liées au modèle américain, plus je me retrouvais à réfléchir à ce qui pouvait découler de la montée en puissance de la Chine, qui, il faut le dire et le redire, n'est aujourd'hui pas armée, absolument pas, pour devenir le leader de l'économie mondiale. Or, dans les faits, évidemment, c'est ce que la Chine est en train de devenir, on va dire même à vitesse absolument accélérée, totalement non maîtrisée. On a évoqué ces derniers jours les risques d'implosion que pouvait occasionner une croissance excessive chinoise. Nous sommes en plein dans cette hypothèse. Et donc, nous sommes exactement dans l'idée que je développais, à savoir que aujourd'hui, si nous avons un recul des États-Unis, nous n'avons pas actuellement de substitution réelle. Et c'est la raison pour laquelle il est indispensable de trouver un modèle alternatif, parce que nous ne pouvons compter sur les pays émergents et en particulier sur la Chine pour assumer à la fois leur développement et à la fois le leadership mondial de l'économie.
Alors c'est quelque chose que vous aviez d'ailleurs brillamment développé dans une publication du Cercle Turgot, La Chine-Amérique, récemment. Je renvoie nos lecteurs à cette contribution remarquable, un livre donc paru chez Erol. Donc des risques, fractures, etc. Mais donc dans ce monde nouveau, alors en plus on est dans une problématique nouvelle qui est celle d'un monde fini, c'est-à-dire un monde où la rareté et le besoin sont en progression et qui sont en soi des menaces supplémentaires. Et dans ce monde nouveau, fini, qu'est-ce qu'il faut garder ?
Alors je crois, voilà, nous sommes dans un monde fini et nous sommes dans une situation d'urgence. Nous avons évidemment aujourd'hui, du fait de la crise, notamment dans les sociétés occidentales, des remises en cause très profondes de nos modes de fonctionnement. On serait prêt à aller très loin dans la réflexion et par exemple, nous avons des idées assez fortes de réindustrialisation des pays riches, ce qui signifierait évidemment une désindustrialisation des pays pauvres, un enfermement ou un retour sur nous-mêmes en disant finalement l'idéal serait de revenir à une situation intérieure dans laquelle nous étions plus heureux parce que finalement plus coupés de la pauvreté et du développement des autres pays du monde. Donc tout ça sont des tentations qui existent aujourd'hui. Je développe dans ce livre l'idée que, étant donné l'urgence, étant donné l'intensité des problèmes et étant donné ce risque que je suis en train d'évoquer, le risque de guerre, qui évidemment modifie complètement les perspectives quand on fait de la théorie économique ou lorsqu'on applique la théorie à la pratique, par exemple, que l'on dit on va faire éclater l'euro, on va abandonner l'euro, on va laisser tomber un certain nombre de pays. On est purement dans la théorie économique. On ne regarde pas quelles sont les conséquences autres qu'économiques, en particulier géopolitiques. Et bien dans ce climat, qui est un climat extrêmement grave, on peut dire dans le sens de gravité, dans un climat qui doit inciter à une réflexion multiple et aux multiples horizons, il est indispensable de ne pas tout casser, de conserver les éléments qui permettent une avancée absolument remarquable, qui est le fonctionnement de tous les pays de la planète. Vous avez dit un monde fini, mais c'est aussi l'immense qualité de la société qui se développe aujourd'hui du point de vue économique sur la planète, c'est-à-dire un monde dans lequel réellement tous les pays fonctionnent les uns avec les autres, de manière certes très imparfaite, mais fonctionnent les uns avec les autres. Donc ça signifie quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui nous avons trois piliers fondamentaux, je dirais qui peuvent aller, on va dire peut-être du plus habituel au plus choquant. Le premier pilier, ce serait conserver la mondialisation, dire à tout prix que si nous partons dans une logique de protectionnisme, et certains intellectuels l'ont prôné, c'est à coup sûr reprendre le même chemin que celui des années 30. C'est là le parallèle que je faisais au départ en disant nous sommes en 37, c'est exactement celui-là. C'est celui d'ailleurs qu'avaient pris les puissances totalitaires dans ces années-là, qui s'est évidemment traduit à la fin par une montée inexorable à la guerre. Donc d'abord,
premier
la
risque,
mondialisation.
Le protectionnisme.
Donc pour le combattre, la mondialisation. Deuxième élément à conserver, le mode de fonctionnement capitaliste. Il n'y a pas d'alternative crédible aujourd'hui, on le voit bien dès lors que l'on essaie d'organiser avec un certain nombre d'États des évolutions économiques à l'échelle planétaire. C'est extrêmement compliqué, les États ne pourront organiser que la surveillance du mode de fonctionnement, ce qu'ils n'ont pas fait suffisamment, peut-être on le réévoquera tout à l'heure, mais aujourd'hui, d'abord, en premier lieu, laisser les différentes forces du marché. Et lorsque l'on dit ça, évidemment, ça n'est pas nécessairement être dans une perspective absolue libérale, mais c'est considérer qu'aujourd'hui, ce sont les forces des entreprises, ce sont les forces de l'économie qui doivent continuer à permettre notamment le développement des pays émergents, quand bien même les conséquences pour les pays riches seraient plutôt des conséquences négatives. Le nouveau monde qui est en train de naître depuis le début des années 90 est un monde où, clairement, les pays pauvres deviennent plus riches, et là, cet effet se fait sentir sur des populations absolument gigantesques sur la planète, mais dans le même temps, les pays riches deviennent plus pauvres. Et donc, cette réalité, elle doit être assumée, y compris lorsque c'est le capitalisme qui en est le vecteur. Et puis, évidemment, le troisième aspect qui me semble absolument essentiel pour que tout cela fonctionne, c'est l'importance de la finance. Et donc, là encore, c'est une, peut-être en faisant l'apologie de la finance, je me trouve en décalage avec la plupart des idées reçues, et pourtant la finance, c'est l'élément absolument indispensable.
C'est le sang de l'économie, comme
vous dites. Exactement, c'est le sang de l'économie, c'est la manière de réaliser au mieux la redistribution des richesses qui permet notamment ce développement des pays émergents. C'est ce qui permet au plus vite d'avoir des répartitions les plus, on va dire, effectives et les plus opérationnelles possibles. Et accessoirement aussi, c'est ce qui permet aux pays occidentaux et aux pays les plus riches d'avoir une possibilité de récupérer une partie de cette richesse créée par les pays émergents. Donc dans l'évolution accélérée avec le moindre heurt possible, ces trois aspects sont absolument essentiels, même si, et j'insiste très fortement dans le livre sur ces aspects, même s'ils doivent être tous aujourd'hui revus dans leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire que concevoir ou envisager un nouveau monde à partir de ces piliers ne signifie pas qu'on doit les laisser évoluer pour eux-mêmes. Et c'est là probablement le cœur de la réflexion, une réflexion effectivement pas très utopique, très réaliste, mais en même temps qui pourrait véritablement déboucher sur des avancées concrètes.
Donc vous repoussez, alors on revient, si je puis dire, à notre introduction, vous montrez qu'en fait vous êtes à l'opposé de tout catastrophisme, mais néanmoins vous insistez dans votre ultime chapitre sur la nécessité de révolutionner ou de changer un certain nombre de lignes, très rapidement les principales que vous avez retenues.
Très rapidement, donc j'évoque le problème de la souveraineté des États, qui est exactement l'opposé, on va le dire, de la notion de mondialisation. Il y a une vraie réflexion à mener que, par exemple, mène l'Europe depuis longtemps sur la question de la souveraineté. On voit que dans cette période de crise, par exemple, la question grecque l'a reposée de manière cruciale. La souveraineté est à nouveau une tentation forte qui pourrait conduire à faire éclater les accords qui peuvent exister entre les pays. Donc certes, la souveraineté doit être remise en question au niveau des États, et là de tous les États, y compris évidemment des États-Unis, qui par leur souveraineté ont posé tellement de problèmes à la planète entière. Cette souveraineté remise en cause ne signifie pas pour autant que l'État doit être mis hors jeu. L'État a un rôle extraordinairement important de régulation. Seul l'État peut réellement apporter la régulation au système économique. Régulation veut dire évidemment énoncer d'un certain nombre de règles, mais régulation veut dire également sanction. Et là, de ce point de vue, cet élément de la sanction est probablement l'une des articulations les plus fortes que la planète économique doit trouver très rapidement. Cette question est d'ailleurs au cœur des G20 depuis que les G20 se réunissent et va l'être de plus en plus au fur et à mesure qu'on évoluera vers une gouvernance internationale.
Donc vous insistez sur la nécessité de transparence à tous les niveaux et donc de déboucher sur un nouveau modèle économique. Alors ce nouveau modèle économique, c'est pour le coup une vraie révolution. Déflation, décroissance,
oui,
gestion plus fine peut-être.
Voilà, je crois que tout cela conduit à la fin, en effet, à un retour à la raison de l'Occident. Et quand on parle de l'Occident, ce sont les pays les plus riches, et c'est en particulier l'Europe, et c'est en particulier les États-Unis. Nous l'évoquions tout à l'heure, le mur de la dette est un mur qui se combine à un autre mur, qui est le mur de la folie de nos organisations économiques, de nos organisations de toute consommation. Aujourd'hui, confrontés à ce problème de surendettement de l'économie mondiale, nous avons l'idée de devoir réduire cette dette. Réduire cette dette, ça veut dire réduire nos consommations, et donc c'est se poser la question, comment réduire de manière très forte nos consommations et nos modes de fonctionnement, sans pour autant semer la désolation, la détresse et la pauvreté. Eh bien, des voies existent aujourd'hui. On réfléchit du point de vue des technologies, en particulier j'évoque longuement la problématique liée aux technologies de l'information, sur lesquelles en effet, dans la commission du grand emprunt, que nous préférons appeler la commission du grand investissement, c'est-à-dire exactement cette position de devoir investir aujourd'hui, quitte à obliger à davantage encore d'économies du point de vue de l'État pour préparer ce futur, en disant là, l'Occident a inventé quelque chose, car l'Occident, dans son mode de fonctionnement, entraîne la planète vers une impasse, on le sent depuis longtemps, et le problème écologique l'a révélé, mais la crise, au fond, nous enseigne que cette impasse est beaucoup plus proche que l'on ne pensait. Et donc, nous devons réfléchir très vite, nous devons réagir très vite, et c'est là où, bien sûr, l'ensemble de l'opinion publique, l'ensemble de la population occidentale doit reprendre pour elle-même ses réflexions et doit se dire « que suis-je prête à changer aujourd'hui dans mes habitudes, dans mes comportements du quotidien ?» C'est au fond à cela que ramène le livre. Nous ne parlons pas simplement de décisions au plus haut niveau, nous parlons aussi de questions qui vont interpeller la population dans son ensemble et qui vont l'obliger à modifier de manière extrêmement fondamentale son approche du quotidien, son approche de la vie et son approche du travail. C'est à cela, c'est à ce défi que nous sommes confrontés. Ce n'est pas un défi négatif, il faut le dire toujours aux jeunes générations. Nous avons vis-à-vis de cela un extraordinaire potentiel, une extraordinaire possibilité que nous offre le progrès scientifique. Il faut simplement la saisir très, très vite.
Voilà, c'était les croyances du professeur Philippe Dessertine, qui, malgré le côté très tonique de sa dernière publication, délivre un message d'optimisme. La guerre comme mécanisme de régulation forte, de dernier ressort des processus généraux de production-répartition, ce n'est pas inéluctable. Les pensées anciennes d'une bonne guerre et ça repart, ce n'est pas votre thèse. Par contre, il faut changer, garder l'essentiel, coopérer et bien entendu, peut-être adapter notre modèle économique. En tout cas, je suis convaincu que nos auditeurs auront envie d'aller rapidement découvrir cette publication. Le monde s'en va en guerre et ne sait quand reviendra. Par le professeur Philippe Dessertine, 250 pages, 15 euros, édition N Carrière 2010. Monsieur le professeur, encore une fois, merci.
Merci de m'avoir reçu.